Chapitre 9. Encore un grenier. Müller arriva à Strasbourg sur les 9 heures du soir et entra au Cheval Blanc, première auberge qui se trouva sur son passage. « Alors, vite, un souper pour moi et pour mon cheval !» dit Müller en entrant dans une salle de l'auberge où plusieurs voyageurs étaient rassemblés autour d'une table. « Monsieur va être servi !» dit d'une petite voix flûtée une grosse dondon qui paraissait supporter à elle seule toutes les fonctions de la maison. Müller s'approcha de la cheminée en attendant qu'on le serve. Mais tout d'un coup, les voyageurs et les gens de l'auberge part d'un éclat de rire en regardant le nouvel arrivé. Celui-ci, qui n'était pas endurant et n'aimait pas qu'on lui rit au nez sans qu'il sût pourquoi, commença par relever ses moustaches et prenant un air rébarbatif. « Me direz-vous, messieurs, quelle est la cause de vos ricanements ?»« Eh, parbleu, vous devez bien voir que c'est vous !» répondit un homme à moustache avec une grande rouillarde à son côté et offrant assez la mine d'un recruteur ou de ces gens qui cherchent à dîner gratis en payant un coup de poing. « Oh, c'est moi !» dit Müller en le toisant de la tête aux pieds. « Et que trouves-tu donc de risible dans ma physionomie ?»« Mais regarde ta culotte par derrière, et tu verras que c'est pas ta physionomie qui nous fait rire !» Müller regarda aussitôt et vit que le mouvement du cheval et le galop qu'il avait couru l'avait tellement déchiré qu'il montrait son postérieur à tous les regards. Ce qu'il aurait dû sentir, mais la chaleur de sa course l'avait empêché de s'en apercevoir. « Oh, comment c'est cela qui te fait rire ?» dit Müller au recruteur. « Parbleu, il faut que tu aies jamais vu de derrière de ta vie pour rire ainsi en regardant le mien. Oh, »« Il est vrai qu'il n'en vaut pas la peine, » répondit celui-ci. « Pas la peine, » reprit Müller en le regardant de travers. « Je crois que tu te trouverais bien content d'en avoir un pareil. Je te conseille pas de t'en moquer. » Mademoiselle Jeanneton, qui probablement se connaissait en postérieur et trouvait celui de Müller de son goût, s'empressa de venir mettre le holà entre ces deux messieurs qui commençaient à s'échauffer et entraîna Müller devant une table sur laquelle était servi son souper, en lui disant tout bas à l'oreille qu'elle se chargeait du soin de raccommoder sa culotte. Müller, qui comprit ce que cela voulait dire, lui pinça agréablement la fesse, la regarda en dessous et se jeta avec avidité sur un morceau d'aloyau afin de répondre à l'idée que Mademoiselle Jeanneton avait conçue de lui. Je ne sais si le recruteur avait aussi ses vues sur la fille d'auberge, mais tout en fumant sa pipe et en mangeant sa côtelette, il regardait avec beaucoup d'humeur les attentions que la demoiselle paraissait avoir pour notre hussard. Et celui-ci, fier de sa conquête, se retournait quelquefois d'un air qui voulait dire « Tu vois que mon derrière fait plus d'impression que tes yeux doux ». Lorsque l'heure d'aller se coucher fut arrivée, Jeanneton s'approcha de Müller et après lui avoir indiqué la chambre qu'il devait occuper, lui dit à l'oreille « Laissez la clé à votre porte, j'irai bientôt vous rejoindre. »« N'y manque pas, » lui répondit Müller, « où je mets la maison sans dessus-dessous. » Alors il prit une chandelle et, laissant le recruteur, qui paraissait s'endormir à côté de sa bouteille, il monta à la chambre qui lui était destinée. Il y était depuis plus d'une heure, attendant avec impatience que Jeanneton accomplisse sa promesse, et cependant, le temps s'écoulait, et tout le monde devait être couché depuis longtemps dans l'auberge. Il avait suivi de point en point le conseil de Jeanneton, et elle n'arrivait pas. Qui pouvait donc la retenir? En ne pouvant plus résister à ses désirs et à son impatience, Müller se lève, passe simplement sa culotte, et se décide à aller chercher Mademoiselle Jeanneton dans toutes les parties de la maison. Après avoir parcouru, sa chandelle à la main, de grands corridors et plusieurs chambres vides, Müller monte un étage plus haut et continue ses recherches. Déjà, il commençait à perdre l'espérance, lorsqu'en passant près de la porte du grenier, il croit entendre quelques bruits. Il s'arrête, écoute, Des soupirs étouffés, des sons mal articulés frappent son oreille. Bientôt, il ne doute plus que Jeanneton ne soit occupé à lui faire une infidélité. Ne pouvant contenir sa fureur, il pousse rudement la porte, elle s'ouvre, et pour la seconde fois de sa vie, se trouve dans un grenier. Mais quel objet frappe ses regards? En approchant des personnes sur lesquelles il veut exercer sa colère, il reconnaît le recruteur se démenant comme un enragé sur une vieille servante de 60 ans qui depuis longtemps ne s'était pas trouvée à pareille fête. Mais comment le recruteur se trouvait-il là? Ben, c'est ce qu'il est bon d'apprendre au lecteur. Ce drôle, qui lorgnait beaucoup les appas de Mademoiselle Jeanneton, avait résolu de souffler cette conquête à notre hussard. À cet effet, il avait faim de s'endormir en buvant sa bouteille. Et lorsque Mullern et les autres voyageurs furent éloignés, il s'empara de Mademoiselle Jeanneton, qui toutes les peines du monde à se débarrasser de lui. Mais Jeanneton ne voulait pas du recruteur et brûlait du désir d'aller rejoindre le hussard. Elle parvint donc à s'échapper. Son brutal amoureux la suit à tâtons. Elle monte divers escaliers pour le dérouter, mais il est toujours sur ses traces. Lorsqu'au détour d'un corridor, elle rencontre une vieille servante de la maison qui allait se coucher. Jeanneton la pousse au devant du recruteur et se sauve. Celui-ci saisit la servante par ses jupons, croyant tenir l'objet de ses vœux. La vieille veut crier et il ne lui en donne pas le temps. Une porte ouverte est à côté d'eux, c'est celle du grenier. Le recruteur entraîne sa belle, la jette sur la paille et... « Oh, mille tonnerres !» s'écria Mullern en contemplant la donzelle du recruteur. « Je ne croyais pas à des goûts si baroques. Te dérange pas, l'ami. Oh, je veux pas t'enlever une si bonne aubaine. » Le recruteur est furieux en voyant les traits et les appas de celle qu'il a prise pour Jeanneton. Mullern rit aux éclats, ce qui augmente encore son dépit. « 5 000 morts, s'écrie-t-il, il faudra donc que ce Jean-Fesse-là vienne toujours fourrer son nez dans mes affaires. » Mullern, qui lui en voulait beaucoup depuis l'aventure de sa culotte, lui allonge au nom de Jean-Fesse un coup de pied qui le fait retomber sur le malheureux objet de sa méprise. Le recruteur se relève et saute sur Mullern en saisissant une fourche qui se trouve près de lui. Mullern lâche sa chandelle pour attendre de pied ferme son adversaire et ces messieurs se tapent à qui mieux mieux. Mais, ô malheur imprévu, pendant qu'il s'exerce à se donner des coups de poing, il ne s'aperçoit pas que la chandelle, en tombant, a mis le feu à une botte de paille. Et cette botte communique à d'autres, et en un instant, le grenier est embrasé. La vieille que les combattants avaient laissée étendue sur la paille est suffoquée par la fumée et fait retentir l'auberge de ses cris. Tout le monde se lève, on va, on vient, on court sans savoir pourquoi. Mais bientôt les flammes qui sortent en tourbillon du haut de la maison avertissent les spectateurs du danger qui les menace. En vain l'aubergiste cherche à faire donner du secours. Le feu a déjà fait de tels progrès qu'il est impossible de l'éteindre. Dans ce tumulte, Mullern abandonne son adversaire pour songer à la fuite. Il descend, court à sa chambre, mais le feu y est déjà. Il va s'en éloigner lorsqu'il entend des cris partir de ce côté-là. Il entre et aperçoit cette pauvre Jeanneton qui était venue le trouver et qui, en l'attendant, s'était mise dans son lit. Notre hussard, qui voit Jeanneton prêt à périr pour lui, s'avance au milieu des flammes, la prend en chemise à demi-morte dans ses bras et sort de l'auberge en courant avec son précieux fardeau. Chapitre 10. La tante de Jeanneton.
« Où sommes-nous, mon ami ?» dit Jeanneton à son libérateur en revenant à elle.
« Ma foi, je n'en sais rien, » lui répondit Mullern en la posant sur un banc de pierre. « Tout ce que je sais, c'est que j'ai une culotte percée, que tu es en chemise, et que s'il faisait jour, nous verrions une partie des habitants de Strasbourg en contemplation devant nous. »
Je n'ai pas envie de les attendre, dit Jeanneton. Mais quoi, le feu aurait-il brûlé toute l'auberge? Oh, je le crois bien. Du train dont il allait, il brûlera toute la ville si on n'y prend garde. Mais comment faire? Nous ne pouvons pas rester tout nus sur cette place. Non, ça serait trop hasardé. Oh, il me vient une idée. J'ai le tente blanchisseuse enfin dans ce quartier-ci. Il faut aller trouver. C'est une bonne femme et elle nous recevra bien. Sois, allons chez ta tante. Et voilà, Mulherne et Jeanneton, bras dessus, en chemise, qui vont chez la blanchisseuse de foin. Après avoir marché assez longtemps, ils arrivent dans une petite rue étroite et sale et s'arrêtent devant une allée. C'était là que demeurait la tante de Jeanneton. Mulherne frappe quatre coups que la bonne femme, qui demeurait au quatrième étage, n'entend pas. Ah, c'est qu'elle a l'oreille un peu dure et qu'elle dort toujours comme un sabot, dit Jeanneton. Ben, en ce cas, répond Mulherne, nous ne risquons rien que d'entrer par la fenêtre. Il frappe une seconde fois, puis une troisième, pas plus de réponse. Mulherne, impatient, était d'avis de jeter des pierres dans les carreaux, lorsqu'un voisin du premier, réveillé par le bruit, entr'ouvre sa fenêtre et demande qui frappe de la sorte au milieu de la nuit. C'est moi, monsieur Gratelard, répond Jeanneton. Je viens coucher chez ma tante. Voudriez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? Oh, c'est vous, mademoiselle Jeanneton. Comment, à cette heure-ci? Oui, monsieur Gratelard, c'est que le feu a pris chez monsieur Boutman, l'aubergiste où j'étais, et j'étais obligé de me sauver. Oh, mon Dieu, est-il possible que m'apprenez-vous là? Mais que fais-tu donc à la fenêtre, Bibi? Dit une petite voix grêle qui sortait du fond de l'alcôve du voisin. C'était madame Gratelard, qui, ne sentant plus son époux auprès d'elle, se levait fort inquiète de savoir ce qui l'occupait. C'est rien, ma petite chatte. C'est mademoiselle Jeanneton qui vient coucher chez sa tante. Et je vais lui ouvrir la porte. Mais remets-toi au lit, mon raton. Tu pourrais t'enrhumer. En disant ces mots, monsieur Gratelard ferme sa fenêtre et descend pour ouvrir à Jeanneton. Mais quel est cet original? Demande Mulherne à cette dernière. Oh, c'est un ancien charcutier retiré qui vide ses rentes avec sa chaste moitié. Mille bombes, il paraît qu'il a peur de se casser le cou, car il se dépêche pas trop de descendre. Enfin, monsieur Gratelard paraît, en pétalaire et en bonnet de nuit, sa chandelle à la main. Et voyant Jeanneton en chemise, il redresse son bonnet et retrousse sa robe de chambre. Mais lorsqu'il aperçoit Mulherne, il reste immobile devant eux, ne comprenant pas ce que cela lui veut dire. En deux mots, Jeanneton le mit au fait de toute l'histoire, et quand il eut appris que Mulherne était son libérateur, il ne s'étonna plus de ce qu'elle lui offrait un asile. Ils montent tous les trois l'escalier, rencontrent sur le carré du premier étage madame Gratelard, qui était bien aise de s'assurer par elle-même quelle était la personne à laquelle son mari ouvrait la porte. Oh ciel, un homme nu! Dit-elle en apercevant Mulherne. Et au lieu de s'enfuir, elle s'avance pour le voir de plus près. Va donc te coucher, Jean-Jean, dit monsieur Gratelard. Je te raconterai tout ce qui s'est passé. Mais madame Gratelard, qui avait aussi aperçu Jeanneton en chemise, et qui craignait que ses appas, plus frais que les siens, ne fissent faire des comparaisons à son mari, entraîna celui-ci chez lui, en lui disant que, puisqu'il avait ouvert la porte, on n'avait plus besoin de ses services. Jeanneton remercia monsieur Gratelard, et les deux époux rentrèrent chez eux. Voilà donc Mulherne et Jeanneton devant la porte de la blanchisseuse. Ils frappent tous deux de manière à l'enfoncer, mais la bonne femme s'éveille et vient en tremblant demander « Qu'est-ce qui est là? »« C'est moi, ma tante, lui répond Jeanneton. Ouvrez vite. » La vieille ouvre, nouvelle surprise de sa part en voyant Jeanneton en chemise et un homme avec elle dans le même état. Mais Jeanneton l'a bientôt mise au fait de ce qui lui est arrivé. Et madame Tapin, oui, c'était le nom de la tante, saute au cou de Mulherne et l'embrasse à trois reprises
pour avoir sauvé sa nièce. Müller se serait bien passé de l'accolade, mais il fallut en passer par là. Jeanneton et Müller n'avaient besoin de repos. On avisa bien vite au moyen de se faire des lits. Madame Tapin n'avait pour tout logement qu'une grande chambre où elle couchait et un petit cabinet à côté. On fit un lit pour Jeanneton dans le cabinet et Müller dit qu'il s'accommoderait d'une chaise pour passer la nuit. En disant cela, il regardait Jeanneton, qui le comprenait très bien, et Madame Tapin consentit à tout ce qu'on voulut. Le lit fut bientôt prêt, Jeanneton se coucha, Madame Tapin en fit autant, et dès qu'elle fut endormie, Müller alla partager le lit de celle pour laquelle il avait fait violer une vieille femme. Mais le feu à une maison battit un homme, réveillait les voisins et, en vérité, il l'avait bien gagné. Le lendemain, lorsque chacun fut levé, Müller pensa qu'un bon déjeuner serait très nécessaire pour réparer les fatigues de la veille. Mais Jeanneton n'avait pas le sou. Madame Tapin n'était pas riche et ne pouvait guère leur offrir que du pain et du lait. Müller se ressouvint qu'il devait avoir dans sa culotte une bourse assez largement garnie, car le colonel Framberg voulait qu'il n'épargnât ni soins ni dépenses pour retrouver son Henri. Alors la joie renaît dans tous les cœurs. Jeanneton court chercher ce qu'il faut pour le déjeuner, ainsi qu'un tailleur pour faire bien vite des habits à Müller. Et Madame Tapin met tout en l'air chez elle pour préparer le repas. Pendant ce temps, Müller réfléchit sur ce qu'il avait à faire. Il pensa qu'il était aussi bien chez Madame Tapin qu'à l'auberge, qu'il pourrait de même faire ses recherches en y logeant. Et le résultat de ses réflexions fut qu'il demeurerait avec Jeanneton tout le temps qu'il passerait à Strasbourg. On déjeuna gaiement. Jeanneton ne se sentait pas de joie d'avoir trouvé dans Müller un homme tout à fait riche et amoureux. Au demeurant, c'était une bonne fille que Jeanneton, et qui n'avait d'autre défaut que d'aimer un peu trop le sexe masculin. Müller le raconta en deux mots ce qu'il amenait à Strasbourg, et promit de rester chez ces dames tout le temps qu'il y séjournerait. Madame Tapin en fut enchantée. Elle voyait que Müller aimait le bon vin et la bonne chère, et pensa que, tant qu'il serait dans la maison, elle ferait ce qu'elle appelait des repas de noces. Après le déjeuner, Müller partit pour commencer ses recherches. Il parcourut presque toute la ville, sans obtenir aucun renseignement sur Henri. Il revint le soir près de Saint-Jeanneton, oublié les fatigues de la journée. C'est ainsi que tous les jours s'écoulaient et chacun était satisfait. Seulement, Madame Tapin ne comprenait pas comment un homme comme Müller, qui aimait tant à bien dîner, pouvait se contenter de coucher toutes les nuits sur une chaise. Au bout d'une dizaine de jours, Müller commença à croire que l'objet de ses recherches n'était pas Strasbourg, car après en avoir en vain parcouru toute la ville, visité tous les endroits publics, il n'avait pu rencontrer Henri. Il était même déjà décidé à écrire à son colonel peu de succès de ses démarches et à lui demander ce qu'il devait faire, lorsqu'un soir, en entrant dans un café, Müller reconnut Franck, le domestique de Henri, occupé à boire de la bière à une table. Müller se garda bien de lui parler, se doutant que si Franck le voyait, il lui conterait quelques mensonges pour lui donner le change. Mais il sortit aussitôt du café et attendit patiemment à la porte que Franck s'en alla afin de le suivre sans en être aperçu. Oh, il n'attendit pas longtemps. Au bout de quelques minutes, Franck sortit du café. Müller le suivit de manière à n'en pas être remarqué, sans pourtant le perdre de vue. Franck enfila plusieurs rues détournées, et Müller voit avec étonnement qu'il sort de la ville. Il continue de le suivre, mais à peu de distance de la ville, Franck s'arrête devant une jolie petite maison éloignée des autres habitations.
Il frappe à la porte, on lui ouvre et il entre. Müller s'avance et examine la maison autant que la nuit peut le permettre, et pensant qu'il est trop tard pour entrer en explication, se retire bien décidé à revenir le lendemain matin. Mais avant de suivre Müller, revenons un peu à notre héros que nous avons abandonné depuis si longtemps. Chapitre 11. Florence. En sortant du château de Framberg, Henri et Franck prirent le chemin d'Offenbourg. Henri ne pensait qu'à sa chère Pauline, et il espérait, comme c'était près d'Offenbourg qu'il avait connu, qu'il apprendrait dans cette ville quelque chose sur son sort. Comme Henri était assez confiant et qu'il brûlait d'ailleurs de s'entretenir de sa belle, il eut bientôt mis Franck dans sa confidence, et puis il était nécessaire que Franck fût instruit afin de mieux l'aider dans ses recherches. Franck était un garçon intelligent, adroit et plus propre enfin à conduire une intrigue que sarcler les allées du parc de Framberg. Flatté de la confiance de son maître, il lui promit de se rendre digne et de tout faire pour l'aider à retrouver celle qu'il adorait. Arrivés à Offenbourg, Henri et Franck firent sans aucun succès toutes les recherches possibles sur le nommé Christiane et sa fille. Là, enfin, de ne rien découvrir, Henri résolut de voyager pour se distraire dans quelques climats éloignés, s'en remettant au hasard du soin de retrouver sa chère Pauline. Henri pensa que l'Italie, dont il avait entendu vanter les beautés, pourrait lui offrir plutôt qu'ailleurs des sujets de distraction. Ils se mirent donc en route pour Naples, voyant Jean à cheval et s'arrêtant dans tous les endroits qui méritaient de fixer leur attention. Il ne leur arriva rien d'extraordinaire jusqu'à Florence, où Henri désira passer quelque temps. La situation charmante de cette ville, située sur les bords enchanteurs de l'Arno, la beauté des édifices, les chefs-d'œuvre en tout genre qu'elle renferme, tout enivra les sens d'Henri, qui n'étant jamais sorti du château de Framberg que pour en visiter les environs, ne se doutait pas qu'il existât dans le monde un endroit aussi délicieux. Un soir, en se promenant aux environs de la ville, Henri entend une musique mélodieuse partir d'une maison élégante située sur les bords de l'eau. « Oh, mon ami, mais c'est elle est là !» dit Henri à Franck. C'est la même musique que j'ai entendue près d'Offenbourg. Vous croyez, monsieur? Oh, mais j'en suis sûr. Et quel autre que ma Pauline pourrait tirer de son luth des sons si enchanteurs? Ah, monsieur, il y a bien des femmes qui pincent de cet instrument-là. N'importe. Oh, je veux absolument connaître la personne qui habite cette maison. Quand Henri avait formé quelques projets, il fallait qu'il l'exécutât. Aussi commença-t-il par chanter sous les fenêtres de la maison, afin d'attirer l'attention. Notre héros n'était pas musicien, mais il avait une jolie voix, et le désir de plaire suppléait en lui au défaut de savoir. Aussi bientôt, la musique cessa-t-elle, et on écouta le nouveau chanteur. « Tu vois bien que c'est elle, » dit Henri. « Elle a reconnu ma voix. Elle s'est tue pour m'entendre. » « Bon, ce n'est pas encore certain, monsieur. Vous ne savez donc pas qu'en Italie, on fait l'amour que comme ça, qu'il n'y a rien d'étonnant ce que l'on vous écoute. » Malgré l'avis de Franck, Henri continua de chanter et on continua de l'écouter. Lorsqu'il eut fini, on entr'ouvrit la jalousie et on jeta en bas un billet attaché à un caillou. « C'est une lettre !» s'écria Henri en ramassant le papier. « Quand je te disais que c'était elle !»« Je n'ai pas encore sûr, monsieur, » répond Franck en secouant la tête. Henri s'approche de la fenêtre et à la faveur de quelques rayons de lumière, il lit le billet suivant. « Aimable étranger, le son de la voix douce et tendre a pénétré jusqu'à mon âme. Oh, je ne puis résister au désir de te connaître, et je cède au charme de tes accents. » Rentre donc ce soir à minuit devant la petite porte du jardin qui est au bord de l'eau et l'on t'introduira près de moi.
Henri ne savait que penser après la lecture de ce billet. Et que je vous disais, moi, monsieur, que c'était quelque aventure galante que vous vous prépariez. Mais tu es fou, répond Henri à Franck. Cette femme me connaît sans doute et elle a quelque chose à me dire. Ah, vous convenez donc à présent que ce n'est pas votre belle demoiselle. Mais oui, il est vrai que. Bon, au surplus, je verrai celle qui m'a écrit et je saurai ce que tout cela veut dire. Comment, monsieur, vous voulez aller à ce rendez-vous? Pourquoi pas? Mais monsieur, c'est peut-être quelque piège que l'on veut vous tendre. Oh, tenez, croyez-moi, mon cher maître, n'y allez pas. Allons, tais-toi. Franck se tut, voyant que ce serait en vain qu'il voudrait détourner Henri de son projet, et celui-ci alla se préparer à son rendez-vous nocturne. À l'heure dite, il se rend seul à la petite porte du jardin. Après avoir attendu quelques minutes, il la voit s'ouvrir, une pauvre femme paraît. Elle prend Henri par la main et lui dit de se laisser conduire. Le cœur lui battait avec force en suivant sa conductrice. C'est ordinairement l'effet que produit une première aventure galante. Mais ce sentiment nouveau, ce trouble inconnu, sont de bien courte durée et avec l'habitude du plaisir, on en voit diminuer la jouissance. La conductrice de Henri, après l'avoir fait parcourir plusieurs allées du jardin, l'introduisit dans la maison. Il monte un petit escalier dérobé, elle ouvre une chambre, y fait entrer Henri et se retire. Notre héros reste quelques minutes immobile d'étonnement et d'admiration. Ce qu'il voyait était bien fait pour le surprendre. Il était dans un boudoir charmant, décoré de tout ce que le luxe et le bon goût peuvent inventer de plus séduisant, et éclairé par un nombre infini de lustres, dont la clarté éblouissante ajoutait à l'enchantement de cet endroit délicieux. Mais quel objet séduisant attire les regards de Henri? C'est une femme jeune et belle, parée des dons de la fortune et de la nature, qui, nonchalamment couchée sur une ottomane, accueille le jeune homme avec un sourire charmant. Eh bien, monsieur, vous ne me dites rien? En vérité, madame, j'avoue que je n'ose. Allons, je vois bien que vous êtes un enfant et qu'il faut vous encourager. Madame, il est vrai que la surprise, l'admiration, mais vous êtes galant, monsieur. Vous venez donc vous asseoir auprès de moi. Venez, au lieu de rester immobile à me regarder. Henri ne se fit pas répéter deux fois et fut bientôt sur l'ottomane à côté de la charmante Italienne. C'est donc vous qui avez chanté, monsieur? Oui, madame, et c'est aussi vous sans doute que j'ai entendu. Oui, et je suis flatté que mes accents vous aient fait désirer de me connaître. Ah, madame, lorsqu'on vous voit, on sent encore redoubler le charme qu'ils inspirent. Vraiment, vous dites cela d'un air à me le faire croire. Et la jolie femme abandonnait à Henri une main charmante qu'il baisait avec transport. Bientôt, il obtint d'autres faveurs que l'on n'avait ni la force ni le dessein de lui refuser. Tu resteras ici, mon ami, dit Félicia, c'était le nom de la jolie femme, à Henri, lorsqu'ils reprirent leur conversation. Non, mais ma bonne amie, je n'ai pas prévenu mon domestique et. Eh bien, monsieur, fait-il pour votre domestique que nous séparions aussitôt et. Que je vous laisse retourner à Florence au milieu de la nuit? Oh non, tu resteras, n'est-ce pas, mon ami? En disant cela, Félicia entourait Henri de ses jolis bras, et celui-ci n'eut pas la force de résister. Félicia tira une sonnette. La femme qui avait introduit Henri parut. Lesbie, lui dit Félicia, tu vas nous apporter à souper. Ensuite, elle s'approcha de sa suivante et lui dit tout bas quelques mots que Henri ne put entendre. Mademoiselle Lesbie, qui paraissait être au fait de ces sortes d'aventures, fit lestement ce que sa maîtresse lui ordonna, et une collation recherchée fut bientôt servie à nos deux amants. Le lecteur se doute bien que la conquête de Henri était une de ces femmes galantes dont l'Italie abonde. Oui, Félicia, après avoir été actrice pendant longtemps, s'était retirée dans la jolie maison qu'elle occupait près de Florence. Ses nombreuses conquêtes l'avaient comblée de présents. Et Félicia, plus sage que beaucoup de ses compagnes, avait amassé une fortune brillante et vivait presque en femme honnête au moment où le hasard lui fit rencontrer Henri. Sa beauté, sa tournure peu commune la séduisirent et elle résolut d'attacher ce bel étranger à son char. Depuis longtemps, elle suivait Henri partout, dans les bals, dans les promenades. Elle était toujours derrière lui, sans qu'il s'en doutât. Et ce qui d'abord n'avait été qu'un simple goût, devint bientôt une forte passion. Mais Felicia vit bien que Henri, novice en amour et d'un caractère romanesque, ne pouvait être séduit par des moyens ordinaires. C'est pourquoi elle tâcha de fixer son attention avec son luth, dont elle jouait fort bien. Et nous avons vu comment elle réussit à enflammer l'imagination de notre jeune voyageur. Eh bien, nous allons voir quelles furent les suites de cette aventure. Après une nuit passée dans les bras de sa tendre amie, Henri réfléchit à sa situation. Il aurait voulu connaître davantage cette Félicia qui avait captivé ses sens. Il se reprochait même de s'être laissé entraîner trop facilement. Mais quel autre à sa place, à moins d'être un caton, aurait été plus sage que lui? Ces réflexions raisonnables firent bientôt place aux douces impressions du plaisir. Henri n'était d'ailleurs ni d'un âge à être sage, ni d'un caractère à le vouloir. Après avoir déjeuné près de sa belle, elle lui permit enfin de retourner pour un moment à son auberge afin de calmer les inquiétudes de son valet. Henri revint à Florence, mais chemin faisant, il n'était plus le même. Ce qui, la veille, avait à peine attiré ses regards, fixait son attention, lui paraissait charmant. Il ne pensait ne respirer que plaisir. Il trouva Franck fort peu inquiet de lui, car, ayant à peu près deviné l'aventure de son maître, il ne s'était pas mis en peine de son absence. Henri ne tarda pas à retourner près de Felicia. Il la trouva achevant sa toilette. « Où allons-nous donc, ma bonne amie ?»«
Mon ami, le temps est superbe. Nous allons dîner à la campagne, et ce soir nous reviendrons à Florence. » On donne au spectacle une pièce charmante et nous irons la voir. »
Felicia fut bientôt prête et voilà nos jeunes gens qui s'en vont en courant et faisant mille folies. Felicia n'avait pas voulu que Lesbi l'accompagnât et Henri avait ordonné à Franck de rester à Florence parce qu'on n'a pas besoin de domestique pour aller promener avec ce qu'on aime. La campagne est charmante lorsqu'on est heureux. Chaque bosquet, chaque site agréable semble inviter au plaisir. Le silence des bois, la majesté des forêts répandent dans tout notre être une émotion qui élève notre âme et fait doucement battre notre cœur. Si au contraire quelque chagrin profond nous tourmente, la campagne ne calme pas notre douleur. Le silence de la nature ne fait qu'ajouter à notre mélancolie. L'œil ne voit plus qu'avec indifférence toutes ces beautés qui s'offrent à nos regards, et l'obscurité des forêts enfante dans notre tête mille pensées sinistres, mille projets de destruction. Henri et Félicia s'arrêtaient à tous les endroits qui leur plaisaient. Félicia avait toujours envie de se reposer lorsqu'il passait sous quelques bosquets bien sombres et bien touffus. Henri n'avait garde de la refuser. Mais, à force de s'asseoir et de se relever, ils virent enfin par avoir réellement besoin de repos.
« Oh, vérité, monsieur, je puis à peine marcher. Je ne pourrai jamais aller jusqu'à l'endroit où nous devons dîner. »«
Mais, madame, est-ce ma faute? Vous ai-je refusé de vous asseoir toutes les fois que cela vous a fait plaisir ?»«
Oh non, mon ami, mais, tiens, nous ne reposerons plus parce que... »
Parce que, parce que tu... Mais finis donc. Tu vois bien. Oh, cette fois, ce ne sera pas ma faute. Allons, monsieur, il faut nous lever. Oui, ma bonne amie. Oh, Dieu, que les reins me font mal. Et moi, les genoux. Oh, je ne pourrai sortir de 8 jours. Mon ami, l'autre fois, j'emmènerai les sbires. Et moi, Franck. C'est cela, mais en attendant, allons dîner. Oh, volontiers, car j'ai une faim. Et moi, l'oncle. Nos jeunes gens se mirent à courir les champs pour chercher une maisonnette où ils puissent trouver à dîner. Mais mon ami, il faut que nous nous soyons égarés, car je ne vois pas de maison. Oh, je le crains aussi, ma bonne amie. Oh, mon Dieu, si la nuit allait nous surprendre dans ces lieux. Que veux-tu, ce serait un malheur. Mais mon cher, ce que je suis très peureuse. Eh bien, ma bonne amie, je te défendrai si on nous attaque. Voilà de belles consolations. Enfin, après avoir longtemps marché, ils se trouvèrent sur une route et aperçurent une maison isolée. Il était temps, car la nuit commençait à tomber. Ils coururent du côté de l'habitation et virent avec joie que c'était justement une auberge, d'assez mince apparence à la vérité, mais qui était pour eux la manne envoyée au peuple d'Israël. L'aubergiste, qui ne paraissait pas habitué à voir du monde, les reçut avec la plus grande politesse, leur offrant d'avance tout ce qu'ils pourraient désirer, et leur assurant qu'ils seraient contents du souper. Mais que nous donnerez-vous? Dit Henri à l'aubergiste. Oh, monsieur, vous aurez du macaroni. Je n'en veux pas, dit Félicia. On ne mange que cela dans ce vilain pays. Eh bien, madame, je vous donnerai du fromage et des galettes dont vous me direz des nouvelles. Comment? S'écria Henri. Du fromage et des galettes pour se refaire l'estomac quand on n'a pas mangé depuis le matin. Et qu'on a bien gagné de l'appétit, dit Félicia. Que voulez-vous, monsieur? Je vous offre ce que j'ai de meilleur. Quoi, vous n'avez pas autre chose dans toute votre maison? Mais pardonnez-moi, monsieur, j'ai bien une petite volaille que je conserve depuis 15 jours pour quelque occasion. Mais diable, elle doit être bien tendre. Délicieuse, monsieur, délicieuse. Eh bien, en ce cas, faites-nous la servir bien vite. Ah, monsieur, c'est qu'il y a une petite difficulté. Laquelle? C'est qu'elle est déjà retenue par 2 officiers qui sont arrivés ici avant vous et qui sont là-haut à jouer aux cartes en attendant leur souper. Ah, oui, diable, c'est désagréable, dit Henri. Mais mon ami, dit Félicia, ces messieurs seront sans doute assez galants pour ne point refuser de céder leur souper à une dame, car certainement il est impossible qu'ils aient aussi faim que nous. Oh, madame, répondit l'aubergiste, vous savez que les jeunes gens ne se piquent plus de galanterie. N'importe, monsieur l'aubergiste, reprend Henri, faites-nous le plaisir d'aller parler à ces messieurs et tâchez de les faire consentir à notre demande. J'y vais, monsieur, et je ferai mon possible pour cela. L'aubergiste monta. Pendant ce temps, Henri fit dresser une table pour leur souper. Il n'était pas moins impatient que Félicia de savoir le résultat de la mission de leur hôte. Il commençait à douter de son succès lorsque le bruit que firent plusieurs personnes en descendant l'escalier les avertit que ces messieurs venaient répondre eux-mêmes à leur demande. Voyons donc cette dame, dit l'un d'eux. Est-elle jolie? Disait l'autre. Henri regarda en souriant Félicia, et il s'aperçut avec étonnement qu'elle changeait de couleur. Les 2 militaires entrèrent en riant dans la salle. C'étaient 2 jeunes gens assez bien faits, mais ayant l'air de fort mauvais sujets. Pardon, madame, dit l'un d'eux en s'approchant de Félicia, si nous prenons la liberté de vous offrir vous-même. Mais que vois-je? Oh, je ne me trompe pas. Oh, c'est Félicia! S'écrie-t-il en s'adressant à son camarade. Oui, ma foi, c'est elle, répond l'autre. Henri devint rouge de colère. Félicia cherchait en vain à dérober ses traits à ces messieurs et ne savait plus quelle contenance tenir. L'un des militaires s'avance et entourant cavalièrement Félicia de ses bras, Oh, comment, ma belle? C'est toi que je revois, lui dit-il. Il veut prendre un baiser. Mais Felicia le repousse avec force. Quoi, s'écrie-t-il, tu fais ta cruelle? Mais quand tu jouais les reines au grand théâtre de Naples, t'étais pas si méchante que cela. Que veut dire ceci, monsieur? Dit Henri, en s'approchant avec fureur du militaire. Ben, parbleu, monsieur, vous voyez bien ce que cela veut dire. C'est donc là ton nouvel amant, Félicia, reprend l'autre militaire en ricanant. Ben, je t'en fais mon compliment, il est jeune encore, tu le formeras. Insolent, répondit Henri en regardant le jeune homme avec des yeux étincelants de colère. Je t'apprendrai que je n'ai pas besoin de leçons pour châtier les gens de ton espèce. Et en disant ces mots, Henri donna un soufflet au militaire qui était le plus près de lui. Celui-ci, furieux, tire son sabre et va fondre sur Henri, mais il part le coup avec une table dont il se sert comme d'un bouclier. L'autre officier lâche bien vite Félicia pour venir se joindre à son camarade. Pendant ce temps, la jeune femme s'échappe de la chambre. Les deux militaires sont comme deux lions autour de Henri, mais celui-ci fait des merveilles et, tout en parant avec sa table les coups qu'il lui porte, il renvoie encore tout ce qu'il trouve sous sa main, les pots, les bouteilles, les chaises, les cruches, tout cela vole de part et d'autre dans l'auberge. L'aubergiste cherche à mettre la paix et à séparer les combattants, mais en se mêlant parmi eux, il reçoit un coup de sabre destiné à Henri et roule sous les bancs et les tables en criant qu'il est mort. Notre héros a le bonheur d'atteindre la tête d'un des officiers en lui jetant une bouteille, et le coup l'étourdit si bien qu'il tombe sans connaissance à côté de l'aubergiste. Son camarade n'en est que plus acharné contre Henri, qui, commençant à perdre ses forces, allait peut-être succomber si une foule de paysans que la femme de l'aubergiste était allée chercher ne fut entrée fort à propos pour mettre fin à ce combat. Henri profite du tumulte pour gagner la porte. Deux chevaux sont attachés dans la cour. Il en prend un, monte dessus et arrive à Florence au grand galop. « Comment, monsieur, c'est vous? Mais je croyais que vous ne coucheriez pas ce soir ici. »« Non, Franck, nous n'y coucherons pas non plus. »« Que voulez-vous dire, monsieur? Va tout de suite payer notre hôte. Selle nos chevaux et partons sur le champ. » « Quoi, monsieur, au milieu de la nuit ? Allons, allons, pas de réflexion, fais ce que je te dis. » Franck se hâte d'obéir, car il voit que son maître n'est pas d'humeur à écouter ses représentations. Les chevaux prêts, Henri et Franck montent dessus et sortent de Florence au milieu de la nuit.